Europa Voice numéro 69 et j'ai comme à chaque épisode d'Europa Voice le plaisir d'avoir Nathanaël Bloch avec nous. Salut Nathanaël.
Salut Christophe.
Alors, on va parler donc une fois n'est pas coutume de Nouvelle-Calédonie. En fait, il y a eu un référendum, deuxième référendum d'autodétermination pour l'île qui est à côté hein, de l'Australie. Expliquez-nous l'importance de ce vote, de ce deuxième vote, vote probablement pivot. En tout cas, c'est ce qui laisse à penser pivot dans l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie.
Alors effectivement, Christophe, il y a eu un second référendum sur l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie. Alors la question qui était posée aux électeurs inscrits sur les listes électorales, c'était: voulez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté et devienne indépendante. Donc c'est assez clair. Alors il faut aussi petit élément de précision que simplement les électeurs inscrits qui répondent à certains critères de résidence stricte, notamment pour les non-Kanaks, c'est-à-dire qu'il fallait habiter sur le territoire depuis un certain nombre d'années, pouvaient participer à ce référendum. Et les résultats de ce référendum, Christophe, c'était un non pour une pleine souveraineté et une indépendance à 53,3% et oui à 46,7% dans ce référendum.
Et c'est important parce que, comme je disais, c'est le second référendum, mais au premier, le non l'avait emporté avec 56%. Donc du coup, les indépendantistes sont un peu sur la pente ascendante dans l'opinion, en tout cas l'opinion exprimée via les bulletins de vote.
Alors, il y a deux enseignements majeurs de ce référendum. Le premier, d'abord, c'est que on a une participation qui progresse dans ce deuxième référendum hein, par rapport au premier référendum. On a plus 4,62 points par rapport au scrutin du 4 novembre 2018. Donc, ça veut dire que finalement, on a un électorat qui a conscience des enjeux de ce référendum d'autodétermination. Et c'est, on peut le dire, c'est ce que le président Macron avait dit, c'est une réussite démocratique. Ça, c'est le premier enseignement, Christophe. Mais le deuxième enseignement qui nous intéresse même davantage ici, et c'est là où c'est intéressant, c'est que on a en fait un écart qui se resserre entre les deux camps. Parce que 2 ans plus tôt, en 2018, les partisans à l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie avaient recueilli seulement 43,3% contre 56,7%. Alors que là, ils sont à 46,7%. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est finalement presque une victoire en trompe-l'œil pour les indépendantistes. Et d'ailleurs, on a vu des scènes de liesse extraordinaires en Nouvelle-Calédonie hein, de ces indépendantistes, parce que on le sait, il y a un troisième référendum qui est prévu hein, par les accords de Nouméa. Et donc les indépendantistes, ce qu'ils voient eux, c'est pas le résultat en valeur absolue de ce deuxième référendum, mais c'est la progression, c'est le mouvement entre le premier référendum et le deuxième référendum. Et ce évidemment qu'ils espèrent, c'est que cette progression continue et qu'ils accèdent à l'autodétermination et à l'indépendance dans le troisième et dernier référendum qui est prévu.
Alors c'est vrai que la progression était de 3 points, et c'est vrai que si ça continue sur le même volume de progression, les 3 points, on sera à 50-50, donc ça risque d'être vraiment très 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 serré si ça continue dans ce sens-là. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en fait, au niveau gouvernement français et au niveau anti-indépendantiste, également, on essaye, et on assez positivement d'ailleurs, mais on essaye de mettre la Nouvelle-Calédonie vraiment sur cet axe Indo-Pacifique. Et on rappelle l'importance d'une île comme la Nouvelle-Calédonie dans l'arsenal indo-pacifique de cet axe tant prôné par Emmanuel Macron et par son gouvernement.
Alors il y a deux aspects, Christophe, à cette question. D'abord, et c'est finalement une position assez macronienne du nini ou du en même temps, c'est que à la fois le gouvernement français prend acte hein, de ces résultats hein, et le président Macron ou son ministre des Outre-mer Sébastien Lecornu ne constate hein, que l'évolution et l'augmentation du vote indépendantiste voilà c'est quelque chose qu'ils ont constaté, c'est quelque chose qu'ils doivent anticiper en vue d'un troisième référendum. Ça c'est évident, mais en même temps, Et c'est là où c'est intéressant, c'est que finalement, quelle que soit, j'allais dire, la réponse à ce troisième référendum, c'est l'après-référendum déjà qu'on va préparer. Si je fais une analogie, Christophe, avec un sujet dont on va parler dans quelques minutes et qui nous tient à cœur, c'est comme le Brexit. Si vous voulez, à ce moment-là, on ne prépare plus simplement le Brexit. Ce qui va être intéressant, et ce qui va être crucial et primordial, c'est l'après-Brexit. Pour la Nouvelle-Calédonie, c'est la même chose. C'est-à-dire que là, il faut déjà que le gouvernement français se place dans l'après troisième référendum, quel que soit, et c'est ce que le président Macron d'ailleurs a dit, hein, quelles que soient les options. Et une des manières, Christophe, et c'est là où c'est assez intéressant, une des manières de se placer déjà dans l'après troisième référendum, c'est d'éloigner un petit peu la focale et de considérer effectivement, comme vous l'avez mentionné, que la Nouvelle-Calédonie, elle s'inscrit dans une politique géostratégique française qui est plus grande, qui est plus globale, qui est l'axe Indo-Pacifique, qui est la zone Indo-Pacifique, qui est une priorité, Christophe, pour la France. Alors, l'axe Indo-Pacifique, qu'est-ce que c'est? C'est un axe qui va de Paris à Canberra, en passant par New Delhi, et donc qui inscrit aussi après Canberra la Nouvelle-Calédonie. Alors pourquoi c'est important, Christophe, pour la France? C'est important parce que en fait, si on résume, on a un espace géopolitique, notamment pour la France, qui est en train de se déplacer de l'Atlantique au Pacifique. Et si je vous donne juste deux chiffres. On a 93% de la zone économique exclusive. Donc vous savez, hein, c'est ces zones au-delà de votre territoire, ces zones maritimes dans lesquelles vous pouvez développer vos activités économiques. On a 93% de cette zone pour la France qui est située dans les océans Indien et Pacifique. Parce qu'on a une présence insulaire extrêmement importante dans ces zones-là. Ça, c'est un premier chiffre. Et puis, on a plus de 1,5 million de résidents français et 8 000 militaires qui sont aussi en mission dans cette zone Indo-Pacifique. Donc pour la France, c'est extrêmement important et inscrire la Nouvelle-Calédonie dedans, c'est un enjeu crucial pour le président Macron.
Oui, et surtout, faut rappeler que ça a un enjeu également européen, parce qu'il n'y a pas vraiment d'autres puissances, entre guillemets, européennes, qui soient autant présentes dans le Pacifique et autant présentes, prêtes à répondre, justement, dans cette bataille américano-chinoise. Donc c'est pour ça que l'influence à la fois de la France et le positionnement de la Nouvelle-Calédonie aux yeux du gouvernement français est ultra importante.
Alors oui, Christophe, en fait, il faut là aussi hein, élargir un petit peu le spectre et la focale. Hein. Nous, en tant que Français, on parle évidemment de la Nouvelle-Calédonie, mais ce sont tous ces États insulaires de cette zone pacifique qui connaissent un regain d'intérêt depuis le début des années 90, et notamment de la part des puissances asiatiques. Hein, et c'est là où il faut faire la comparaison, hein, c'est que dans le jeu international, même si le jeu pour la France il est multipolaire parce que vous vous opposez à d'autres pôles ou à d'autres espaces géopolitiques importants. Et si vous voulez, ce qui s'est passé, c'est que ces États du Pacifique, depuis les années 90, ont vu un regain d'intérêt, et notamment de la Chine. Alors pour une simple et bonne raison, c'est que la Chine, en déployant ses forces de frappe dans ces zones du Pacifique, elle peut accéder à des ressources de manière plus facile. Je pense notamment aux ressources aquatiques, halieutiques et minières. Et surtout, elle trouve dans ces zones-là des appuis diplomatiques extrêmement importants pour déployer son influence internationale. Et ce qui est intéressant, Christophe, dans la vision de cet axe, de cette zone Indo-Pacifique pour la France, c'est qu'il y a deux aspects qui est très clair. Hein, c'est une note du Quai d'Orsay, c'est des informations que vous pouvez trouver sur le site du Quai d'Orsay. C'est que d'un côté, pour la France, c'est renforcer les partenariats avec la Chine et introduire plus de ce qu'on appelle de réciprocité dans le cadre du dialogue politique. Hein, donc ça va être la réciprocité sur les taxes sur les taxes carbone, ça va être la réciprocité sur les échanges économiques, hein, c'est de faire jeu égal en fait avec la Chine. Et puis le deuxième volet de cet axe Indo-Pacifique, qui est peut-être un peu moins offensif, c'est de créer finalement avec certains pays de la zone, alors on pense à l'Australie, on pense à l'Inde, on pense au Japon, à la Corée du Sud, des partenariats stratégiques parce qu'on partage une communauté de valeurs et d'intérêts. Tout ça, c'est dans une note du Quai d'Orsay. Et c'est intéressant, Christophe, parce qu'on voit bien qu'il y a deux aspects dans cette zone Indo-Pacifique. Il y a un petit peu contrecarrer l'influence de la Chine. Et puis, de l'autre côté, il y a développer avec des pays avec qui on partage des valeurs et des intérêts, des coopérations encore plus renforcées. Et donc, c'est extrêmement important. Et juste pour vous montrer, hein, le président de la République française, Emmanuel Macron, dans son dernier discours du 14 juillet, a déclaré, je le cite, nos grands enjeux, c'est aussi l'axe Indo-Pacifique, défini il y a bientôt 3 ans, où nous sommes présents, où nos concitoyens vivent, où nos armées sont déployées et où les impératifs stratégiques, la liberté de cette souveraineté dans l'océan Pacifique et Indien, sont une clé du jeu contemporain des grandes puissances. Coucou la Chine.
Ouais. Et aussi, il y a la nomination de l'ambassadeur français en Australie, Christophe Penaud, a été nommé à un nouveau rôle, justement, pour avoir comment dire, un regard complet sur les évolutions de cet axe.
Oui, voilà, effectivement, c'est une nomination qui est d'abord méritée, hein, pour Christophe Penaud, parce que c'est l'ambassadeur encore pour quelques jours français en Australie. C'est un grand connaisseur de la région, à la fois du sud-est asiatique et évidemment de l'Australie, où il est encore ambassadeur pour quelques jours. Mais c'est en plus une nomination symbolique, puisque ça va être le premier ambassadeur dédié à cet axe Indo-Pacifique. Et d'ailleurs, c'est là aussi où c'est intéressant, et on voit que c'est quelque chose de stratégique, c'est qu'il va... Il va pas être, j'allais dire, basé et avoir une position tournante dans la région. Il va être basé à Paris. Et depuis Paris, évidemment, il va beaucoup voyager, mais il va pouvoir déployer toute la stratégie autour de cet axe Indo-Pacifique. Donc voilà, pour le rappeler, hein, pour partager avec nos auditeurs, parce que c'est quelque chose qui est nouveau, avec lequel ils ne sont pas forcément familiers. Pour la première fois, la France aura un ambassadeur pour cet axe, pour cette zone Indo-Pacifique. Et c'est l'ambassadeur actuel français en Australie, Christophe Penaud, qui va avoir ce rôle dans les prochaines semaines.
Absolument. Allez, on va parler du Brexit maintenant, parce que on arrive à une des dates butoirs, hein, le 15 octobre, c'était une des dates butoirs dans les négociations entre le Royaume-Uni et l'Europe. Je serais tenté de dire, on en est où, Nathanaël? Parce que on a lu beaucoup, ça a fait couler beaucoup, beaucoup d'encre, pour pas forcément grand-chose.
Beaucoup de bruit, alors pour pas grand-chose, hein, c'est le titre d'une célèbre pièce de Shakespeare. La date butoir, Christophe, c'est ce jeudi 15 octobre, où il doit y avoir un Conseil européen qui est peut-être, mais alors on l'a dit tellement et tellement de fois que je mets des gants, mais qui est peut-être le Conseil européen de la dernière chance pour trouver un compromis sur la sortie de l'Union européenne du Royaume-Uni. On en est où? Bah, c'est que pour l'instant, il me semble que les 2 mois et demi de la période de transition qui reste ne sont pas suffisants pour que l'Union européenne et le Royaume-Uni trouvent un accord de sortie.
Donc on en est où de tout ça? Parce que cet accord de sortie, on a quand même l'impression qu'on se dirige tout droit vers ce que Boris Johnson avait dit ouvertement dans les médias il y a un petit moment, le fameux World Trade Organization, le WTO, là où le Royaume-Uni aura donc cette sorte de hard Brexit et décidera donc de partir complètement de l'Europe sans avoir trouvé ou finalisé en tout cas un accord. On sent que ça se dirige vers ça quand même.
Alors, c'est très compliqué, Christophe, et c'est très contradictoire, hein, ce Brexit, et on l'a vu, on l'a revu dans cette Europa Voice, parce que le Royaume-Uni a encore assuré début octobre, donc il y a quelques jours, hein, il y a quelques jours de ce Conseil européen, qu'il voulait parvenir à un accord sur la relation commerciale post-Brexit, mais en se disant toutefois prêt à un échec des négociations s'il n'obtenait pas ce qu'il voulait. Vous avez mentionné l'Organisation mondiale du commerce, le WTO en anglais. C'est en fait, c'est peut-être le worst-case scénario, parce que si on ne trouve pas d'accord, le Royaume-Uni, qui a quitté, déjà, hein, il faut le rappeler, a quitté l'Union européenne le 31 janvier, n'appliquera plus à ce moment-là les règles qui régissent encore l'Union européenne, mais appliquera les règles de l'Organisation mondiale du commerce. Et en fait, c'est le worst case scénario, c'est le scénario du pire, Christophe, parce que c'est, si vous voulez, pour juste simplifier, ben, ça voudra dire que entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, eh ben, on aura de nouveau les droits de douane les plus importants, les taxations sur les produits et les marchandises les plus importantes, comme si, en fait, il n'y avait aucune relation commerciale, aucun accord entre les deux parties. Donc, ça fait véritablement peur à la fois à l'Union européenne et à la fois au Royaume-Uni. En fait, si vous voulez, ce qui bloque encore, pourquoi il y a cette volonté d'arriver à un accord, mais il n'y a toujours pas cet accord, ce qui bloque, c'est toujours, et encore une fois, c'est les mêmes sujets, hein, c'est ces questions autour de la pêche, c'est les questions autour de la concurrence équitable, hein, et les risques de. Enfin, en tout cas, ce qu'on veut éviter de dumping fiscal, social, etc. Et puis aussi, c'est la gouvernance en tant que telle de l'accord et finalement l'histoire commune qui va s'écrire entre les deux entités une fois que le Royaume-Uni aura terminé cette année de transition.
C'est ressenti comment, ça, au niveau des instances européennes?
Alors, je vais vous donner deux sons de cloche, Christophe. D'abord, la position française, mais qui est importante dans ces négociations du Brexit. On a encore le secrétaire d'État assez proactif français aux affaires européennes, Clément Beaune, qui a déclamé sur les réseaux sociaux, sur Twitter, il y a quelques jours, qu'il vaut mieux pas d'accord qu'un mauvais accord. Donc, vous voyez, encore une fois, on s'attend encore, même du côté français, au scénario du pire et toujours à ce que les relations entre les deux pays soient régies par l'Organisation mondiale du commerce, par le WTO, et donc, encore une fois, avec des droits de douane élevés, etc. En France, on est assez pragmatique et puis on s'attend au pire. Du côté des négociateurs européens, et donc du côté de Michel Barnier, évidemment, on fait preuve de peut-être d'un peu plus de diplomatie, c'est leur rôle en même temps, et on le voit, hein, Michel Barnier, lui, il aimerait bien. Donc c'est celui qui conduit la négociation pour l'Union européenne. Michel Barnier, il aimerait bien en fait que les dirigeants européens tempèrent, modèrent un peu certaines de leurs demandes, et notamment en ce qui concerne les droits de pêche. Juste pour rappeler à nos auditeurs d'Europa Voice, la France voudrait continuer à accéder finalement à la même zone maritime commune qu'elle a avec le Royaume-Uni, comme s'il y avait encore un accord, alors que le Royaume-Uni, en fait, voudrait véritablement limiter cette zone et ne plus permettre aux pays, j'allais dire limitrophes, hein, je pense au Danemark, à la France et encore à d'autres pays, d'accéder à ces eaux et donc de réduire drastiquement les possibilités de pêche pour les pays français. Sachant, élément aussi qui est important de préciser, qu'après, le Royaume-Uni, lui, exporte 70% de sa pêche vers l'Union européenne, et que finalement tout le monde aurait besoin d'un accord commercial et d'une bonne intelligence sur ce sujet-là. Donc vous voyez, hein, on a vraiment, encore une fois, j'allais dire, et le Royaume-Uni et la France qui font un peu leur coq et qui durcissent d'une certaine façon leur position, et on a les négociateurs voilà, qui essayent vraiment pas de faire preuve de diplomatie. Et c'est pareil, hein, là j'ai cité Michel Barnier, mais je peux aussi vous citer du côté britannique le négociateur David Frost, qui lui souhaite aussi que Londres tempère un peu ses velléités de sur-subventionner ses entreprises, ses aides aux entreprises britanniques, pour justement éviter un dumping fiscal, un dumping social, etc. Donc on est vraiment entre le marteau et l'enclume, Christophe, en ce moment, dans ces négociations.
On peut vraiment attendre quelque chose en ce 15 octobre ou pas? Réellement. Ça semble compliqué quand même.
Alors écoutez, je vais vous dire, du côté, si je prends de nouveau, si je crois qu'il faut vraiment analyser chaque acteur. Si je prends de nouveau du côté français, un élément qui est extrêmement pour moi significatif, important, c'est que le Premier ministre Castex, alors qu'on est quand même en pleine gestion de la pandémie du Covid, avec des annonces qui vont être extrêmement importantes, et peut-être même qui vont avoir un impact très important pour la population française, le Premier ministre Castex a présidé une réunion interministérielle cette semaine, donc semaine d'annonce par rapport au Covid. Il a présidé une réunion interministérielle pour accélérer les préparatifs de la France en vue de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Et il a demandé, hein, il a demandé à ce que tous les ministères, et là je cite un communiqué de Matignon, tous les ministères se mettent en situation de répondre rapidement à toutes les questions posées à la fois par les entreprises, les territoires et les particuliers, parce que la France doit se préparer à tous les scénarios en étroite concertation avec l'Union européenne. Donc vous voyez, c'est-à-dire que du côté français, on ne sait pas ce qu'on attend, mais on attend de ce Conseil européen qu'une décision soit prise, en tout cas qu'un scénario se dessine, et on s'attend au pire. Je veux dire, ce n'est pas anodin, hein, Christophe, hein, que le Premier ministre préside une réunion interministérielle sur cette thématique-là. Donc ça, c'est, vous voyez, du côté français, j'allais dire, on est assez réaliste, on est assez pragmatique. On se prépare au pire, on a une position qui est assez alignée, hein, entre le secrétaire d'État aux affaires européennes, entre le Premier ministre, entre les dernières déclarations d'Emmanuel Macron. Du côté anglais, si vous voulez, c'est aussi un peu la réponse du berger à la bergère, c'est-à-dire que comme on a cette position des principaux acteurs européens qui est assez ferme, bah, du côté anglais, on est aussi assez ferme, et la réponse, hein, véritablement, Christophe, de fermeté du côté anglais, bah, si on l'a vu, hein, c'est la loi, l'extrêmement controversée loi sur le marché intérieur adoptée par la Grande-Bretagne. Alors, pour faire simple, mi-septembre, Boris Johnson a fait voter une loi qui revenait en fait en partie sur certains engagements qui avaient été pris dans le cadre du traité avec l'Union européenne. Et notamment, j'aime bien en parler, c'est notamment sur le filet de sécurité et sur le protocole nord-irlandais, sur les relations qui vont régir, une fois le Royaume-Uni sorti de l'Union européenne, les rapports à la fois entre le Royaume-Uni et l'Irlande du Nord, et l'Europe et l'Irlande du Nord. Donc vous voyez, vous avez d'un côté, on se prépare au pire, de l'autre côté, Boris Johnson durcit aussi ses positions, et puis il obtient surtout le vote au Parlement britannique. Donc on ne sait pas ce qu'on va obtenir de ce Conseil européen, mais il est évident qu'on va se diriger soit vers un consensus, où chacun a finalement beaucoup avancé ses pions les quelques jours précédents et va un petit peu avoir quelques victoires, hein, grignoter légèrement, ou soit on va aller au clash et on va se diriger effectivement vers un no deal, vers le scénario du pire. Alors il faut juste aussi le préciser, Christophe, quand on dit le scénario du pire, c'est pas un scénario où rien n'est prévu. Hein. Je reprends l'exemple du WTO, de l'Organisation mondiale du commerce. C'est juste un scénario où on a un cadre, on a une structure qui existe, mais qui n'est évidemment pas la structure optimale, parce que c'est retour à la case départ. Et d'ailleurs, c'est intéressant pour nous qui sommes en Australie, c'est le Premier ministre britannique Boris Johnson a dit qu'il était prêt à finir la période de transition sur des termes à l'australienne, c'est-à-dire un no deal, si un accord ne peut pas être trouvé. Donc vous voyez, on dit le scénario du pire, c'est pas qu'il n'existe rien, c'est qu'il existe des choses, mais qui ne sont pas forcément à l'avantage de deux partenaires qui ont eu l'habitude ces dernières années bah, de faire du commerce, de faire des relations et d'être ensemble sous la même bannière européenne.
Ouais, tout à fait, mais on le sait aussi que l'Australie veut un accord de libre-échange avec l'Union européenne. Ça, c'est une autre discussion. Affaire à suivre, en fait, dans tout cas, dans tout ça, parce que tout, on en saura un petit peu plus vers la fin de la semaine.
Voilà, mais on en saura plus à la fin de la semaine, mais gardez un œil sur ce Conseil européen. Moi, je le dis, un Conseil européen certainement de la dernière chance, quel que soit le scénario, mais Conseil européen de la dernière chance dans la relation Union européenne, Royaume-Uni post-Brexit.
Absolument. Merci, Nathanaël.
Merci Christophe.